Moi, c'est André Limbouchmaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi. La question orale adressée au ministre délégué aux finances par le Sénat sur l'existence des comptes de l'État dans les banques commerciales relance les débats sur la gestion du trésor public en RDC. Selon le ministre délégué qui a confirmé devant les sénateurs l'existence de ces comptes, ce mécanisme est mis en place notamment pour contourner la lanterne souvent enregistrée dans la chaîne des dépenses. Quel regard portez-vous sur cette affaire? C'est la question principale du débat de ce jour. Vous pouvez nous joindre à l'adresse pa@radiocapu.net et vous pouvez nous appeler au 081 890 63 15 ou bien au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Noëlla Louzitou et Ritier Sidiakala concourent à la production de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungenbo sous la supervision de Ben Kabamba. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne le professeur Prosper Kiboyi, ancien ministre des Finances de la RDC. Bonjour professeur.
Bonjour.
Voilà, alors professeur, comment sont gérés les fonds de la République? Autrement dit, quels sont naturellement les mécanismes mis en place pour cette gestion?
Merci. Merci pour votre question. S'agissant des deniers publics, il y a des grandes règles qui sont de mise. Ce sont des deniers qui appartiennent à la communauté. Et le principe en comptabilité publique, comme d'ailleurs du reste dans toutes les législations, ces principes veulent que seules les personnes habilitées, les personnes assermentées, les personnes mandatés au nom de l'État peuvent gérer ce qu'on appelle les deniers publics. Toute autre gestion qui serait en dehors de ce cadre, en matière de finances publiques et par principe, sont une gestion détournée de son objet.
Voilà, la personne habilitée dans les cas d'espèce, vous voulez parler de la Banque centrale ou la Banque nationale?
C'est-à-dire, oui. Le ministre des Finances qui représente l'exécutif a dans ses services et services compétents, notamment le trésor public, et généralement la caisse de l'État est confiée à la Banque centrale avec qui l'État signe un contrat de gestion, donc une procuration qui lui est donnée pour agir en lieu et au nom de l'État. Ça, c'est une première chose. Il y a une deuxième subdivision possible, c'est que la trésorerie publique se partage cette fonction à cause de problèmes techniques, notamment la conservation de l'argent, et donne à la Banque centrale une procuration pour qu'elle serve de trésorier pour des opérations bien concises. Et donc, la Banque centrale... Jusque-là, et dans tous les pays, joue le rôle de caissier de l'État et en même temps, si le besoin se fait sentir, de trésorier de l'État.
Voilà. Alors, mais aujourd'hui, il y a les débats autour de l'existence des comptes de l'État dans les banques commerciales. Alors, comment, quand ou pourquoi les comptes de l'État peuvent être logés dans des banques privées?
Le principe est que les deniers publics ne doivent être gérés que par les institutions publiques. Mais ceci n'exclut pas que, par exemple, le ministre des Finances donne mandat et fasse assermenter ceux qui gèrent ses comptes. Cela est possible. Et si cela n'a pas été fait, il faut vite le faire, parce que le principe, c'est sans dérogation, les biens qui appartiennent à la communauté ne peuvent être gérés que par ceux qui ont mandat de gérer en place et lieu de l'État qui représente l'ensemble des intérêts de la commune.
Et quels sont les préalables à remplir pour agir de la sorte? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre? Au fait, le ministre délégué, qui est l'argentier de la République, a-t-il une marge de manœuvre sans pour autant, par exemple, contacter le Parlement?
Non, ce sont des actes de gestion quotidienne. Il n'est pas nécessaire de contacter le Parlement. Mais je suppose que le ministre délégué, puisque vous le citez, a donné mandat. Et ce mandat doit être pas un mandat permanent, mais un mandat temporaire, à titre occasionnel. Il appartient à l'Argentine nationale de désigner, moyennant un mandat, pour un temps extrêmement court, résoudre un problème technique ou un problème ponctuel. Mais au-delà de ces problèmes ponctuels, il n'est pas possible d'envisager que les ressources publics, qui sont désignés d'ailleurs en un mot technique qu'on appelle deniers publics, puissent être gérés par des personnes qui ne sont ni assermentées, ni mandatées, moins encore qui ont reçu procuration au nom et de la part d'État.
Alors vous avez parlé d'un temps court, c'est à peu près combien la durée là?
Non, la durée c'est l'appréciation de fait. Vous savez, quand vous avez votre argentier, il faut quand même lui faire confiance, de manière à ce qu'il gère le mieux possible pour l'intérêt de la nation. Mais on pense que s'il y a un problème, c'est en fonction des circonstances de ce problème qu'on résout. Je prends un exemple parce que j'ai eu à suivre ce problème-là, on dit, c'est pour résoudre le problème de retard de paiement des agents. Mais si le problème se pose, il ne faut pas contourner la difficulté. Je crois qu'il faut d'abord commencer au sein de chercher pourquoi est-ce qu'il y a du retard. S'il y a du retard, on résout le problème. Entre-temps, pour ne pas peut-être pénaliser ceux qui sont bénéficiaires de ces fonds, mettre en place un circuit qui autorise qu'une banque privée à qui on a mis une provision momentanée puisse servir la cause. Mais je ne pense pas qu'à titre permanent qu'on puisse demander à une banque privée qui suit une logique privée, qui n'est pas la logique de l'État, puisse gérer sans mandat, par exemple, les deniers qui appartiennent à la communauté.
Voilà. Nous allons ouvrir les débats avec les auditeurs. Professeur Prosper Kiboué, ancien ministre des Finances de la RDC. Ouais. Nous vous gardons encore en ligne. Nous allons prendre Eddy de Lubumbashi et Franck de Vienne. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, composez les 081-890-6315 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Eddy de Lubumbashi. Eddy, bonjour.
Bonjour, monsieur Gira.
Vous avez la parole. Quel regard portez-vous sur cette affaire de comptes existants dans les banques commerciales?
Bon, merci beaucoup. J'avais eu la chance de suivre la séance plénière qui était consacrée à ce dossier. C'était le sénateur Mungulu qui avait initié une question orale avec débat sur le dossier. Bon, entendre le ministre et entendre la conclusion de M. Mungulu, qui était l'auteur de la question, il était satisfait par les réponses qui lui ont été données par le ministre concernant la nécessité de l'existence des comptes dans les banques. Mais c'est au niveau de la gestion de ces banques que M. Mungulu avait trouvé des choses à redire. M. le ministre a dit par exemple ceci, parce que moi aussi j'étais convaincu par ses réponses. Ils disent, parce que nous avons très mal géré les fonds qui nous étaient donnés par les bailleurs de fonds, par le passé, pour le moment, quand un bailleur de fonds vient vous donner de l'argent, c'est de l'argent non remboursable. Il exige à ce que le ministre ouvre un compte en banque dans une banque commerciale. Il refuse de verser cet argent dans le trésor au niveau de la banque centrale. Il veut bien que ce soit versé plutôt dans une banque commerciale, parce que pour le moment, ils sont un peu trop regardants pour voir comment est-ce qu'on va gérer ce compte-là.
Allô. Allez-y rapidement, Eddy. Il ne faut pas trop prendre le temps parce qu'il y a des auditeurs qui attendent aussi pour intervenir.
Oui, C'était la raison majeure qui poussait le ministre à ouvrir des comptes en banque dans des banques commerciales. C'était à la demande.
Donc si je comprends bien, Eddy, si je comprends bien.
Cette question à l'invité.
Oui, Eddy.
Et lui aussi.
Oui. Alors. Voilà, donc si je retiens par rapport à votre intervention, deux choses. D'abord, la nécessité d'ouvrir d'ouvrir ses comptes dans des banques privées, c'était pour contourner cette difficulté ou l'exigence des bailleurs de fonds, mais néanmoins, pour les sénateurs qui étaient l'initiateur de cette question orale, il a relevé quelques irrégularités qu'il a pu constater par rapport à la gestion même de ces fonds. Alors, donc je crois que nous allons voir avec notre invité le principe des bases, comment cela peut être géré même dans les comptes privés, parce qu'il a dit tout à l'heure, c'est d'une manière un peu courte, au fait il y a un temps court qu'on accorde dans le mandat que l'argentier national donne à une personne non assermentée de pouvoir gérer des fonds publics. Merci beaucoup Eddy d'avoir appelé de Lubumbashi. Franck, vous êtes à Vienne, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, le prof et à tous les amis fidèles de Parole aux auditeurs.
Alors vous avez la parole, votre point de vue.
Merci beaucoup pour la parole. Les lois de chaque république doivent être vulgarisées pour être comprises et appliquées. Et aussi cette loi sur les finances chez nous devait être bien vulgarisée afin qu'il n'y ait pas autant de confusion telle que c'est le cas maintenant. Mais seulement chez nous, une bonne catégorie de la couche moyenne de la population ne maîtrise pas convenablement tous les rouages des lois qui le régissent. Alors je crois que le prof ferait mieux de nous faire un peu de traçabilité de l'ouverture de ces comptes. À quand ces comptes, quand est-ce que ces comptes ont été ouverts, quelles sont les instances étatiques qui en étaient informées et quelles sont les instances étatiques qui n'en étaient pas informées. Ça c'est pour moi les questions qui me semblent assez capitales et fondamentales parce que ouvrir un compte, ce n'est pas un problème, mais nous devons aussi le dire que chez nous, tous les milliers des îles ne sont pas bancarisables. Alors, avec le système de la bancarisation des pays, des gens, c'est quand même réaliste que l'État congolais coopère avec la banque qui est implantée dans tel lieu où il aurait besoin d'atteindre autant de citoyens congolais. Mais seulement, je crois qu'en matière de gestion étatique, il nous faut beaucoup de transparence, beaucoup de clarté, afin qu'il n'y ait plus de soupçons. Je crois que ce qui manque ici, c'est un peu d'ouverture. Quand est-ce qu'on avait ouvert ces comptes? Quelles sont les instances étatiques qui en étaient informées? Et quelles sont les instances qui n'ont pas été informées et pourquoi? J'ai dit et je vous remercie.
Voilà, merci beaucoup Franck. Vous posez là la question autour de préalables à remplir avant même que ces comptes soient ouverts dans des banques. Voilà, donc merci beaucoup parce que vous rejoignez également la préoccupation d'Eddy dans son deuxième volet. Toto Kani est à Kinshasa. Toto Kani, bonjour. Toto Kani, vous avez la parole.
Oui, merci, JR, pour m'avoir accordé la parole. J'ai suivi ce débat en direct depuis le Sénat. Laissez-moi vous avouer que cette situation me laisse perplexe au regard de sa gravité. Un pays est comme un bateau, à mon avis, qui navigue suivant des normes préétablies. Alors, dans le cas d'espèce, je parle de la Constitution, qui est la loi fondamentale de laquelle naissent des lois sectorielles. Mmh. Considérant le caractère impératif, impersonnel et opposable à tous, je pense que les gouvernants doivent agir en sachant qu'ils servent d'exemple, c'est-à-dire en respectant la loi. Alors, de ce fait, je pense que le Premier ministre, chef du gouvernement, qui en réalité est le ministre des Finances, connaît la loi sur les finances publiques et il agit en conséquence. Quant au sénateur Mongolou, qui a initié la question orale avec débat, je crois que c'est un chevronné juriste de première pointure du pays. Alors, il connaît mieux le dossier et il a certainement des preuves. Il reste à ce que l'on va faire la commission d'enquête qu'on a initiée. Alors, il faut revenir au ministre. Si le ministère des Finances agit en conformité avec la loi, je ne peux que les congratuler, en tout cas à mon avis. A contrario, si l'on s'écarte des limites fixées par la loi, alors il y a des choses à se reprocher.
Oui, Toto Kani.
En tant que garant de la nation, est sanctionné tout déviationnisme car la nation ne peut pas pouvoir aller de l'enfant pendant qu'il y a des pesanteurs qui nous tire derrière.
Oui, Omar, pardon, oui, Totokani, je crois que d'autres invités ont insisté sur cette question, surtout sur les principes des bases, parce que ce ne sont que les personnes habilitées, mandatées au nom de l'État qui, au fait, à qui on confie la charge donc, de gestion des deniers publics. Et on peut, au fait, détourner cette option, en cas, peut-être pour une cause des problèmes techniques, mais pendant un temps court. C'est que notre invité a dit tout à l'heure, mais il pourrait peut-être revenir pour ne pas permettre à ce qu'on puisse encore qu'on ait des rédits. Voilà, donc merci beaucoup. Donc vous demandez à ce qu'on puisse agir dans le respect de la Constitution et aussi dans le respect de la loi sur les finances qui, en fait, gère les domaines. Merci beaucoup. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Omar, vous êtes avec nous ?
Oui, allô ?
Oui, Omar, vous avez la parole. Votre point de vue.
Merci beaucoup, J.R., pour la parole. Bonjour aussi à tous les invités. Je suis très content de ce débat qui engage toute la nation congolaise. Moi, je pense que ce débat renvoie, n'est-ce pas, à la gestion des finances publiques. Et aucun financier ne peut ignorer que les finances publiques renvoient également aux ressources et aux dépenses. Parler aujourd'hui de la gestion du trésor public nous pousse indirectement de parler aussi de la gestion des ressources de l'État. Mais aujourd'hui, personne ne peut ignorer que la gestion des ressources de l'État pose beaucoup de problèmes quant à leur application. Alors je voudrais, cet avant-midi, que mon intervention soit axée sur trois points. Premièrement, est-ce que l'acte posé par le ministre des Finances est-il régulier? Deuxièmement, quels sont les principes de la gestion des finances ou des trésors publics? Et enfin, qu'est-ce qu'on peut proposer pour que cette gestion ne fasse plus l'objet des problèmes? Premièrement, est-ce que l'acte est-il été régulier? C'est vrai, l'invité a dit qu'il y a des principes que le trésor public ne peut gérer que par les personnes investies des pouvoirs publics. Et c'est là le principe. Mais je pense que dans tout État, il y a ce qu'on appelle la loi financière. Et la loi financière actuelle permet au ministre des Finances, qui est considéré par beaucoup d'auteurs financiers, notamment Maurice Duverger, Bagadet et les autres, comme les gardiens des deniers publics, et c'est lui qui a l'objectif, n'est-ce pas, de garantir la régularité de leur gestion. En cette qualité, il peut donc initier un tel acte. Et cela ne pose pas problème. Deuxièmement, sur le principe de la gestion des dépenses publiques, je pense que personne ne peut ignorer qu'il existe des principes classiques que beaucoup de pays africains ne savent pas appliquer. Premièrement, il y a un principe d'équilibre quand on sait gérer les trésors publics. L'équilibre veut que les ressources mises en place puissent correspondre aux dépenses. Est-ce que tel est le cas dans notre pays? Je ne pense pas. Deuxièmement, le principe de l'annualité. Toutes dépenses faites pour une année doivent correspondre aux ressources faites aussi pour une année. Il y a aussi le principe de l'universalité. Il y a aussi le principe de la spécialité, c'est-à-dire les dépenses ne peuvent être affectées que pour l'objectif pour lequel ils ont été assignés. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans nos gestions souvent? À la fin de chaque exercice budgétaire, il y a toujours des excédents, c'est-à-dire les dépenses ne correspondent pas aux ressources, il y a encore des déficits, soit les dépenses ne correspondent pas aux ressources en étant petit. Moi, je pense que l'acte posé est bon, mais le plus important, c'est que la gestion des trésors publics doit profiter au peuple congolais. Le plus important maintenant n'est pas de critiquer l'ouverture de comptes, mais le plus important, c'est d'activer ou de fortifier les mécanismes de contrôle budgétaire.
Oui, Omar, nous savons depuis la nuit des temps, il y a quand même un mécanisme de contrôle, raison pour laquelle il y a l'existence de cours des comptes.
Voilà, J.R., mais nous pensons que ce contrôle n'est qu'un contrôle de façade, parce que ce contrôle n'aboutit à rien. Interrogez l'histoire française. Jérôme Cahuzac, ministre du budget, a essayé d'échapper à la tête fiscale française. Et vous connaissez les conséquences. Le Parlement français était sérieux et ce monsieur parti. Aussi, chez nous en Afrique, on serait les complaisants. C'est vrai qu'il existe des mécanismes de contrôle, les contrôles techniques avec la Cour des comptes, les contrôles politiques avec le Parlement. Mais dites-moi, dans ces pays, depuis 60 à ce jour, combien de contrôles politiques ont abouti sur la gestion des finances publiques? Moi, je pense que le contrôle des deniers publics, c'est-à-dire de leur gestion, est un élément fondamental pour déclencher le développement de ces pays. Et aussi, il y a aussi une chose qu'on doit critiquer en matière de finances publiques. Les pays africains ont tendance à accorder beaucoup de pouvoirs exorbitants au ministre des Finances. Pourtant, il existe un ministre des Budgets et un ministre de l'Économie. Et accorder beaucoup de pouvoirs exorbitants à ces ministres nous pousse de proposer des actes qui empêchent à l'État d'empêcher. Aujourd'hui, on a gelé ses comptes. Quelle est la conséquence? Il y a des gens qui ne sont pas payés. Moi, je pense que le contrôle doit être rigoureux. Les députés nationaux et les sénateurs doivent faire leur travail. La Cour des comptes doit faire son travail. Et puis, on doit éviter dans la loi financière d'accorder beaucoup de pouvoirs au ministre des Finances. Duverger le disait, Celui qui a trop de pouvoir risque de falloir le faire à son gré. Voilà
ma question d'hier. Merci beaucoup, Omar. Vous avez focalisé votre intervention sur trois volets. Disons la régularité au fait de cet acte posé par le ministre des Finances et aussi le principe de gestion des bases quant à ceux. Et vous avez fait quelques propositions pour qu'on arrive réellement à la solution durable. Merci beaucoup, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa. Arsène, vous êtes à Kikwit. On va terminer par vous et nous allons revenir à notre invité. Arsène, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur J.R.
Vous avez la parole, Arsène.
Ok, je suis mes prédécesseurs que je félicite beaucoup, Toto Kani, Omar, Franck et le professeur. Mais moi, ma question est celle-ci. Nous avons notre invité, le professeur qui est là, il a été ministre des Finances. La première question est celle-ci. Est-ce que les finances congolaises sont-elles bien gérées? Ça, c'est la première question. La seconde est celle-ci. Est-ce que les finances congolaises, jusqu'à arriver au point où il doit avoir un débat, ces finances sont suivies correctement par les schémas établis par la loi ou pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème de confiance. Il faut que le gouvernement puisse mettre le peuple en confiance pour que les histoires puissent bien marcher. Les ressources de l'État ne proviennent que de la population, du contribuable. Alors, si ce même contribuable n'est pas mis en confiance, je crois que nous n'allons pas augmenter nos finances. Nous aurons toujours des sommes modiques pour dire, écoutez, nous ne parvenons pas à faire telle histoire parce que le budget n'a pas été complet. Donc, sur cette question que j'ai posée, je voudrais avoir des explications pour Pierre du professeur parce qu'il est, à part ancien ministre, mais il est aussi professeur qui puisse me renseigner parce que moi, en tout cas, je donne 50% de confiance à mon gestionnaire. Qu'il puisse me convaincre que, Arsène, fais confiance à ton gouvernement, tu peux verser comme tu veux de l'argent que l'État a besoin, ça va faire de bonnes choses. Voilà un peu mon intervention.
Merci beaucoup, Arsène. 081-890-6315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Daddy.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Capi. Professeur Prosper Kiboué, ancien ministre des Finances de la RDC, vous êtes notre invité. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, comment orientez-vous leurs préoccupations?
Bon, merci beaucoup, monsieur Jonel. J'ai entendu, mais comme je vous l'avais exprimé, je ne suis pas là pour apprécier un dossier que je connais pas très bien. J'ai donné un problème de principe. J'ai entendu le dernier auditeur qui pose la question, est-ce que nos finances sont bien gérées? Est-ce que tous les instruments de nos finances sont utilisés pour ce but? Je dois dire, et là c'est pas l'appréciation de qui que ce soit, c'est un constat. C'est vrai que nos finances ont quelques difficultés. Mais là aussi je dirais, comme la sagesse le souhaite, beaucoup d'efforts doivent être faits en effet, parce que les finances ne sont que l'expression de l'exigence de la société. Mmh. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Bon, quant au dossier s'agissant du ministre, je crois qu'il n'y a aucune difficulté. Le ministre a posé un acte de gestion. À supposer que cet acte soit désapprouvé ou soit contesté, c'est simple. Il suffit de corriger cet acte, de revenir aux bonnes intentions. On ne lui reproche pas d'avoir créé ou porté donné un préjudice à la République. Et donc, il faut faire confiance à nos dirigeants en leur demandant simplement de respecter les circuits financiers, en respectant les lois financières et au besoin. Le ministre a supposé qu'il ait donné procuration à qui c'est à la banque privée, qu'il essaye. de lui donner mandat d'agir au nom et en lieu de l'État. Je crois qu'il en a pouvoir. La délégation de pouvoir est faite pour ça. Et il n'y a aucune difficulté à contester des choses qui sont mineures par rapport au grand problème que nous connaissons dans nos finances.
Oui, mais professeur, mais la plus grande question, c'est ce qu'a relevé d'ailleurs Franck, la traçabilité. Aujourd'hui, au niveau de la Banque centrale, je crois que la transparence est de mise, mais dans les banques commerciales, est-ce que d'une manière technique, tous ces éléments ont été passés au peigne fin pour permettre à ce qu'il y ait moins de dégâts, moins d'irrégularité dans la gestion?
Oui. Bon, moi je pense qu'il y a une collaboration, et c'est pour ça qu'on a donné à la Banque centrale une certaine indépendance pour apprécier les actes. Ceci ne veut pas dire que les grands rôles, un rôle ingrat que joue le ministre des Finances à vouloir prendre en charge toutes les opérations soit méconnu. Il est possible que la Banque centrale s'entende avec le ministère des Finances pour réguler tous les flux de recettes, de crédits qui se trouvent à la disposition. Moi, je pense, peut-être, face au problème de retard que le ministre a trouvé à titre provisoire, ce circuit. Mais ce ne doit pas être un circuit permanent de paiement.
Au niveau des banques centrales, des banques commerciales.
Voilà.
Alors, il y a un autre qui a évoqué le respect, c'est vrai, de lois sur les finances publiques. Nous savons que nos lois sur les finances publiques donnent le monopole de gestion, en tout cas à la Banque centrale. Et bon, c'est vrai qu'il y a nécessité, comme vous l'avez dit, que les fonds soient gérés par mandat, par d'autres, donc, avec mandat, par d'autres institutions financières. Mais voilà, mais les problèmes, les gens aujourd'hui, c'est vrai, posent la question sur cette gestion. Et il y a Omar qui a proposé d'ailleurs qu'on puisse ne pas trop charger le ministère des Finances, surtout au niveau des opérations, parce qu'il y a le budget qui existe et puis le ministère de l'économie.
Non. Les attributions sont constitutionnelles, les attributions. Il y a des lois cadres sur les attributions ministérielles. Il ne faut pas dégager le ministre des Finances. C'est un des ministères parmi les plus grands, le plus difficile, le plus ingrat, parce que les appréciations des uns et des autres diffèrent suivant les circonstances. Le ministre des Finances, c'est lui l'argentier national. La Banque centrale joue un rôle qu'on peut dire auxiliaire en dehors de son rôle de gestion de l'ensemble des ressources monétaires. C'est la responsabilité politique et la responsabilité, disons, pécuniaire, la responsabilité personnelle, c'est à l'argentier qui est le ministre des Finances. Donc, le décharger serait une mauvaise chose. Mais qu'on mette en place tous les mécanismes nécessaires.
Oui, professeur.
On l'a dit, notamment, la Cour de compte. La Cour de compte ne fonctionne pas. Et parce qu'aucun comptable, parce que la Cour de compte a comme rôle de recevoir toutes les comptabilités qui sont faites, ce qui aiderait le ministre des Finances à voir clair et à voir comment sont gérés l'ensemble des comptes de ses comptables. On ne le fait pas. Et on ne peut pas imputer toutes les difficultés que nous avons au seul ministère des Finances. C'est l'ensemble de tout ce que nous faisons qui ne suit pas la logique de ce que nous devons avoir comme résultat en matière financière.
Oui, il y a Omar qui a parlé tout à l'heure. C'est vrai, il a reconnu, pratiquement, il dit c'est pas le problème de la gestion, mais c'est plutôt le problème des contrôles. Au niveau technique, ces contrôles sont assurés par la Cour des comptes, mais tandis que au niveau politique, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez reconnu, nous savons comment fonctionne la Cour des comptes dans son format actuel. Et d'ailleurs, on a recruté de nouveaux juristes qui, d'ailleurs, ils sont en stage pour le moment, pour les uns. C'est vrai, là, il y a peut-être aussi des problèmes. Nous avons remarqué l'année passée, la Cour des comptes a sorti même les premiers résultats de l'année 2011-2012. Donc, la gestion des trésors publics a déclaré d'ailleurs qu'il était mitigé, le bilan était mitigé. Alors, pour le contrôle politique aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat notamment, on a même initié une commission d'enquête pour élucider cette affaire. Alors, à l'issue de cette enquête, qu'est-ce qui va se passer?
C'est de la compétence du Parlement, qui est la représentation du peuple, d'exiger à qui que ce soit qu'on rende compte, pour que, à son tour, l'Assemblée aille rendre compte par ses membres auprès de l'ensemble de la communauté nationale comment ces finances sont gérées. Et je voudrais vous rappeler d'ailleurs que ces derniers temps, il y a des nouvelles règles qui viennent de la démocratie, ou qui demandent que le peuple peut exiger de qui que ce soit, à quelque niveau que ce soit, des comptes, pour que le peuple sache de quelle manière ces ressources qu'il donne par les impôts sont gérées. Le droit de regard, le droit de contrôle, c'est un droit naturel. Surtout que le bien n'appartient à personne. Le risque, si ces biens ne sont pas faits, ces contrôles ne sont pas faits, c'est que les biens qui n'appartiennent à personne mais à la communauté soient en quelque sorte distraits de leur destination.
Voilà, alors il y a Eddy, avant que nous redonnions la parole à Malonga et à Léona, Eddy a suivi les débats au niveau du Sénat. En fait, l'Assemblée nationale a reconnu que sur base de l'exigence de bailleur des fonds, qu'il a agi ainsi. Voilà, par principe, vous avez déjà évoqué les principes de base. Est-ce que on peut faire avec les caprices des bailleurs des fonds, bien que dans notre pays, il existe des lois financières qui gère le pays?
Écoutez, les bailleurs de fonds, ce sont des étrangers avec qui nous traitons. Ils apportent leur argent. Ils ont des exigences qu'ils peuvent demander. Mais nous avons des lois. Notre pays n'appartient pas aux bailleurs de fonds. C'est à nous, les nationaux, à nous avec nos institutions, de gérer les fonds et de leur donner les garanties nécessaires pour que ce fonds ne soit pas détourné de leur objet. Mmh. C'est simple. Je pense qu'il y a des demandes qui sont infondées. Si la Banque centrale, sur un fonds précis, avec un compte précis, bien tenu, bien suivi, on lui confie l'argent, il serait quelque peu difficile que cet argent soit détourné, à moins que soit le ministre des Finances est distrait, soit que l'ensemble des fonctionnaires qui composent le ministère ne suivent pas les comptes.
Voilà.
L'histoire de bailleur de fonds, le bailleur de fonds ne joue peut-être souvent que sur notre propre faiblesse. Si c'est une demande. Voilà, nous voulons vous donner l'argent, mais voilà, ça il suffit de leur rétorquer que chez nous, il y a des lois, et qu'il y a des lois qu'on ne peut pas transiger, et que chez nous, il y a des procédures, ou que ces procédures sont de mise. Il ne faut pas que le bailleur de fonds mette notre ministre des Finances en difficulté.
Voilà, devrait être accompli.
Parce qu'ils amènent un peu d'argent. Et nous, on peut se passer des bailleurs de fonds si nous gérons d'énormes ressources que le gouvernement de notre pays, que Dieu nous a et la nature nous a données.
Voilà, merci beaucoup professeur. Nous vous gardons encore pendant quelques minutes avant de vous libérer. On va prendre cette deuxième série des auditeurs. Il y a Malonga qui est dans les Bandundu et Léonard à Kinshasa. Malonga, bonjour.
Bonjour monsieur Gilles.
Vous avez la parole Malonga.
Ok, merci beaucoup. Et je salue notre ministre là-bas honoré de la finance. Bon, ce que je vais demander à notre invité, de ne pas s'inquiéter. Vous voyez que on dit l'expérience m'a rendu sage. Si mes confrères qui m'ont précédé et moi aussi, je peux abonder dans leurs idées, si nous avions et nous avons l'idée.
Oui, rapidement, Malonga, quel regard portez-vous sur cette affaire? Vous avez suivi les uns les autres. Bon, voilà, il y a Omar qui a proposé d'ailleurs qu'il y ait un contrôle au niveau technique par la Cour des comptes, et qu'il y ait un contrôle politique au niveau du Parlement. Voilà, et Franck est allé même plus loin. Il faudrait quand même qu'on arrive à bien gérer les ressources communes, notamment cet argent dans les deniers qu'on appelle les deniers publics, gérés par les trésors publics. Donc, il faudrait quand même une gestion transparente.
Oui, c'est ça que je veux dire ceci.
Oui, rapidement.
Nous avons déjà expérimenté par toutes les propositions de nos experts. Tout ce que nous avions vécu dans notre période de désarénisation, vous voyez, nous avions vécu ici, un nouveau Zaïre était égal à 3 millions. Mais cela a fini à l'intérêt des promoteurs de cette proposition. Raison pour laquelle, moi je vois ceci. Le système de bancarisation, en tout cas c'est comme pépinière de préparation de toutes formes bancaire, si on veut encore renforcer le système
Balonga, je retiens que pour vous, il faudrait vraiment une bonne gestion comme les autres l'ont dit précédemment. On va prendre Léonard qui est à Kinshasa. Léonard, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. C'est Marcelo Léonard, je voulais dire.
Oui, Marcelo Léonard, vous avez la parole.
Ok. Bon, j'ai bien suivi les procès avec tout intérêt, mais je voudrais quand même revenir sur un principe. Ne voudrait-il pas revenir sur la façon... Bon, il est bien. Le ministre a évoqué, entre autres, la lenteur de la chaîne de défense. Mais si nous analysons, est-ce que le ministre était en mesure de nous dire où est-ce que cette chaîne-là commence à se bloquer concrètement? Et au niveau des engagements ou au niveau des liquidations, entre autres, des ordonnancements ou au niveau... Parce que si nous suivons, pourquoi le ministre des Finances a peut-être tendance à vouloir écarter celui des billets? Nous savons qui est la chaîne des recettes comme la chaîne de dépenses. Les deux sont impliqués de part et d'autre, chacun avec ses responsabilités. Je verrais très flou de vouloir défendre quelqu'un qui cherche à s'éloigner. Parce que le même jour, le soir, que cette commission était au point de se constituer au Sénat, j'avais suivi, excusez-moi, TV5, mais le journaliste était un peu sceptique en disant que nous doutons que cette commission aboutisse parce qu'elle n'est pas la première. Et vous voyez déjà, nous portons quelle image à l'extérieur? Les commissions sont faites à l'intérieur. Combien de fois que tous les rapports de reddition des comptes ont donné des bons résultats? Nous savons bien que le budget 2013, jusqu'au deuxième trimestre, en ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire, dépenses affectées
au Chavois. Si je comprends bien, Marcelo, s'il vous plaît, si je comprends bien, vous faites allusion au rapport Bakandeja, la commission Bakandeja, et puis
Je suis loin de tout ça.
Oui, et de...
Oui.
Et de Lutundula à l'époque, parce qu'il y a eu beaucoup de commissions qui ont procédé.
Tous les rapports n'aboutissent pas. Il y a même de ces rapports, les commissions qui ont élaboré de mes rapports, mais qui sont cachés. Les Lutundula ne sont que quelques-uns d'entre autres.
Le Bakandeja et les autres.
Il y en a tant qui n'aboutissent pas. Cette commission-là sera étouffée avant même de sortir de l'hémicycle. Alors, pourquoi...
Non, est-ce que vous ne faites pas confiance parce que la commission, l'auteur de la question orale est aussi membre de cette commission, donc je crois qu'il a intérêt à pouvoir aller jusqu'au bout dans ses enquêtes.
Mon frère, nous en avons beaucoup entendu dans ces pays. Les Bakandeja, Jacob, vous-même, vous l'avez énuméré, mais on a même envoyé une commission sur l'environnement au Bakongo. Quels étaient les résultats sur Perenco? Et c'est pour autant que nous oublions. Bon, qu'il cesse quand même de nous distraire. Les ministres, c'est ce qu'ils font, c'est pour écarter peut-être celui des budgets. Alors il faut à tout prix contourner, trouver une voie courte. D'ailleurs, il était clair dans ses dires.
Voilà, donc vous avez posé un problème sérieux en trois volets. Vous voulez avoir clair si réellement le retard qu'on enregistre, à quel niveau est-ce, au niveau des engagements, au niveau de la liquidation, au niveau de l'ordonnancement. Je crois que c'est le principe des bases. On engage, on liquide et puis on ordonne. Donc je crois que les professeurs pourraient nous donner des éclaircissements. Mais parce que vous avez des propositions à faire, pour qu'on arrive quand même à avoir une gestion de fonds publics, une gestion efficiente, alors vous proposez quoi concrètement?
Bon, concrètement, c'est qu'il faut d'abord commencer par réformer notre comptabilité nationale. Elle n'est plus adaptée. Et les gens sont plus souples de toucher ce qui n'est pas l'essentiel en ce moment. Tout le monde est impliqué à l'OADA. Est-ce que c'est une priorité? Notre comptabilité nationale qui ne s'adapte même pas au système OADA. Mais tout le monde court là en oubliant l'essentiel au pays. Je pense qu'il faut d'abord commencer par asseoir la comptabilité nationale, et notre comptabilité publique, voulais-je dire, qui est malade. La comptabilité publique congolaise est malade.
Merci beaucoup, Léonard Marcelo, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous nous rendons tout de suite à Kisangani, dans la province orientale. Pichu, Pichen, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, vraiment bonjour les auditeurs des paroles de Kinshasa. Je vais juste commencer mon intervention sur l'article 76 de notre Constitution, qui stipule que la Banque centrale du Congo est une institution d'émission de la République démocratique du Congo. À ce titre, elle a pour mission de garantir les fonds publics, la sauvegarde et la stabilité monétaire, de définir et la mise en œuvre de la politique monétaire, de contrôler l'ensemble de l'activité bancaire, des conseils économiques et financiers du gouvernement. Or, s'il faut voir cet article, nous avons un gouvernement qui les affaires courantes, qui ne peut pas engager les pays dans des grandes décisions. comment est-ce que quelqu'un qui est là en train
d'expédier les affaires courantes, de faire juste l'intérim,
de poser une grosse somme comme des 60 millions de dollars à une banque privée? C'est quelque chose qui traduit directement l'esprit de détournement. Or, il faut voir de près, la banque centrale est là pour sauvegarder l'intérêt général. Or, le fait de déposer l'argent à une telle banque-là, vous ne voyez pas que c'est chercher à privilégier une telle personne. Or, il faut voir dans l'article 73 de notre Constitution, il stipule que la Cour des comptes, le compte général de la République démocratique du Congo est chargé et soumis chaque année au Parlement, et la Cour des comptes a l'observation sur ça et doit faire rapport. Je vais maintenant poser une des questions. Est-ce que, quand il s'agissait des rapports financiers de l'année passée, là, est-ce que la somme qui était déposée dans une banque privée était-il inclue ou pas? La deuxième question, de l'indépendance jusqu'à nos jours, quel est le ministre des Finances qui a déjà agi ainsi? Merci beaucoup.
Voilà, c'est une première expérience. Bon, nous allons voir peut-être dans toute règle, il y a des exceptions. Pichou, d'avoir appelé de Kinshasa, on va prendre tout à l'heure un autre auditeur qui va, disons, répondre également. Voilà, on va prendre Michel qui nous a écrit d'ailleurs, Michel Kabasele qui est à Kinshasa. Michel nous a dit, je demande pourquoi la RDC, notre pays, peut avoir des actions secrètes. Voilà. Michel, vous nous rejoignez dans cette émission. Bonjour Michel.
Bonjour à tous, bonjour chers...
Voilà, dans votre correspondance que vous nous avez envoyée, vous écriez en fait le fait que les fonds publics sont gérés d'une manière un peu discrète, d'une manière un peu secrète, il n'y a pas de transparence. Voilà, donc c'est cela que vous voulez dire encore en ondes?
En fait, je voulais un peu parler des faits de façon de gérer les deniers publics de l'État. Parce qu'on se rend compte que le gouvernement nous dit seulement ce qu'il est en train de faire pour son intérêt. Mais pour la gestion publique, la gestion des fonds publics, il y a une certaine opacité entre ces autorités et sinon la population. Je voulais un peu proposer à notre gouvernement, au lieu de à chaque fois avec des routes, des pubs, que un gouvernement responsable préfère, sans pour faire beaucoup de bruit, et pouvoir qu'il puisse un peu nous dire de ce qu'il fait avec ces fonds, les fonds qui proviennent peut-être des bailleurs des fonds et qui proviennent aussi des contributions à partir de nos impôts. C'est un peu juste ça.
Merci beaucoup Michel, 081-890-6315 ou encore le 081-890-4969. On va d'abord prendre Papi qui est à Kinshasa. Papi Kassema, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole.
Oui, merci pour la parole. Je crois que ceux qui m'ont précédé ont déjà dit l'essentiel. Mais à mon avis, j'ajouterais que pour un bon contrôle des comptes publics dans notre pays, les gens qui engagent ces fonds-là doivent être non seulement assermentés, comme l'a dit l'invité,
les professeurs,
mais aussi ils doivent être bien formés. Et l'on doit procéder régulièrement au renforcement de leurs capacités. Et au besoin, créer une école de formation pour ces comptables. Alors, pour terminer, je mettrai aussi un petit accent sur le travail de la Cour des comptes, parce que cette Cour-là a un grand rôle à jouer par rapport au contrôle des
contrôles techniques.
En plus de cela, on ne peut pas se limiter seulement au contrôle politique, mais c'est JR qui est fait ou qui est effectué.
Ce qui est fait par le Parlement.
Soit le contrôle technique par la Cour des comptes. On doit aussi plutôt initier la population congolaise à un contrôle citoyen. Parce que le contrôle technique et politique en sont nécessaires.
Oui, mais Michel, et Papi, pardon, il y a d'autres invités qui a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle règle dans la démocratie, c'est-à-dire le peuple doit contrôler les personnes qu'il a mandatées pour, au fait, gérer la chose publique. Donc, il peut le faire par la voie des ondes, il peut le faire aussi comme on le fait aujourd'hui, il peut le faire aussi en public et au travers des gens qu'il a mandatés au niveau du Parlement aussi. Donc il y a quand même une évolution dans les dispositions, dans les dispositifs, pardon, de la pratique de la démocratie. Donc je crois qu'à ce niveau, le problème ne se pose pas, Papi.
Mais il y a un petit problème, parce que vous savez, quand c'est de faire ce contrôle-là, la population elle-même doit être informée. Je crois que c'est la majorité de la population qui n'est pas informée sur toute cette gestion-là.
Voilà, même sur les lois de finances qui n'ont pas été vulgarisées. Merci beaucoup, Papy Kassema, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Étienne Guémena qui va garder, qui va rester en ligne. Étienne, nous vous gardons. On va vous accorder la parole après. Juste retrouver encore notre invité pour orienter cette deuxième série des auditeurs. 081 890 63 15 ou encore les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Professeur Kiboueï, vous êtes avec nous. Il y a tout à l'heure Marcelo Léonard qui parlait de notre comptabilité nationale qui est malade et appelle même à une certaine réforme de cette comptabilité au lieu que ces derniers temps qu'on puisse nous ruer vers le système Loada qui n'est pas très adapté par rapport à notre comptabilité. Merci selon beaucoup. Lui.
Merci beaucoup pour la question, mais je pense que le problème est très simple. Nous avons le code, notre code de comptabilité qui date de 1954. Il y a beaucoup d'évolutions qui sont faites, du moins le code de comptabilité publique, j'entends. Autant on a fait maintenant des efforts pour notre comptabilité privée par la comptabilité générale, maintenant la comptabilité OADA qui vient en renfort pour s'adapter à l'évolution de notre contexte international, il faut que notre comptabilité soit faite. Savez-vous que la règle est que...
Voilà, on a des petits soucis sous la ligne de notre invité. Professeur?
Chaque année, déposer leur comptabilité auprès de la Cour de compte. Et je voulais également compléter en matière de contrôle ce qu'a dit le il y a au total quatre types de contrôles qui sont possibles en ce moment. Il y a le contrôle administratif, qui est un contrôle à la fois de la hiérarchie, le contrôle qui est fait au niveau de l'inspection de finances, il y a le contrôle politique exercé par les parlements, etc. avec ses différentes commissions, il y a le contrôle juridique ou juridictionnel fait par la Cour de compte et qui, en cette matière, justement, chaque année, et peut envoyer des missions pour notamment vérifier si les dispositifs financiers sont faits. Mais il y a, depuis la naissance de la démocratie, les lois démocratiques qui autorisent au peuple d'exercer un contrôle social sur aussi bien leurs élus, tous ceux qui manipulent aussi bien le fonds public, administratif ou le privé, à quelque niveau que ce soit, pour savoir comment ces responsables gèrent des fonds qui essentiellement viennent de la fiscalité, c'est-à-dire du patrimoine des privés. Et ça, c'est vraiment, nous avons des efforts à faire en matière de contrôle. Et je pense que le contrôle ne doit pas être perçu comme une punition ou un problème particulier, mais c'est un problème de fond. Le contrôle doit être perçu comme une vérification normale qui consiste à rendre compte de fonds qui ne vous appartiennent pas pour obtenir un quitus, pour obtenir un acte libératoire que vous avez bien géré.
Oui, allez-y.
Soit important, quand quelqu'un a bien géré, on lui doit la reconnaissance et le remerciement.
Voilà, il y a tout à l'heure Pichu de Kisangani qui, évoquant l'article 176 sur les missions assignées à la Banque centrale, elle a tout de même regretté du fait que, en fait, le gouvernement actuel qui est décrété démissionnaire puisse prendre un tel acte de haute facture et de niveau très élevé au niveau du pays.
Merci. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas suffisamment informé pour juger ou apprécier l'acte du ministre des Finances. Parce que je n'ai pas suivi le dossier, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Mais ce qui est vrai, c'est que il y a des institutions publiques qui ont des mandats précis, qui ont des fonctions précises, qui ont en quelque sorte le pouvoir d'agir en communauté, en collège, et ces principes doivent être respectés. Mais n'oubliez pas que quand vous gérez, vous cherchez à sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. Il existe des circonstances pour lesquelles on ne peut pas se référer ni au Parlement, ni à la Cour de compte, ni à qui que ce soit, si c'est le résultat obtenu par cet acte est de créer des conditions de bien-être de l'ensemble de la population et surtout des centres de paiement de fonctionnaires qui jusque-là sont...
Il y a toujours des problèmes. Voilà, Étienne est à Guéména, Joël de Kinshasa, on va terminer avec eux. Étienne, bonjour.
Bonjour à Dokapi, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent.
Voilà, en une minute, votre intervention, en une minute.
Malheureusement, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Permettez-moi de féliciter le sénateur qui aurait donc...
L'initiateur de la question orale.
Qui a fait aujourd'hui, nous puissions vraiment connaître ce qui se passe quant à la gestion de la chose publique dans notre pays. Vous savez, parmi les missions assignées aux élus, il y a ce que nous appelons le contrôle parlementaire, qui est une mission très importante. Et parce que je n'ai qu'une minute, moi, je me pose la question, est-ce que le gouvernement congolais, sachant bien que les biens publics ne peuvent être que gérés par les entreprises publiques, mais je ne sais pas pourquoi ce gouvernement s'arrange le pouvoir d'aller loger les fonds du pays dans de banques privées ou commerciales. Moi, je pense que c'est une gestion très bien organisée par ce gouvernement. Et merci, parce que quelque part, il y a un ami qui venait de soulever là, la loi sur la finance publique n'a jamais été rendue publique pour que la population puisse en prendre des connaissances. Et heureusement que peut-être que les parlementaires se sont réveillés et commencent maintenant à faire des contrôles sur le gouvernement. C'est ce qui aide qu'on puisse... Donc moi, je pense que je voudrais interpeller les élus afin de continuer avec leur mission et au besoin sanctionner pour que le pays qui se veut un pays démocratique puisse vraiment revêtir sa peau de la démocratie comme sous d'autres cieux que d'avoir la même gestion. Parce que si on comprend bien cette mission-là, le fait de loger les fonds du pays dans de banques commerciales, c'est pour qu'on puisse avoir la même mise et cautionner des fraudes, cautionner des manœuvres qui ne profitent pas à la République, mais qui profiteraient peut-être à certains membres du gouvernement, comme ils en ont l'habitude.
Merci beaucoup, Étienne. On va prendre Joël. Joël, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Kapi.
Vous avez la parole. Votre point de vue.
Oui, on ne peut pas gérer les fonds de l'État dans des banques privées, surtout qu'elles sont commerciales, parce que c'est une manière de favoriser le détournement des fonds, en ce sens qu'il n'y a pas un critère qu'on suit pour choisir ces banques-là. Et en plus, ceux qui sont chargés de la gestion des finances publiques sont les mêmes personnes qui sont actionnaires dans ces banques-là. Et c'est une manière pour aider.
Voilà, Joël, nous, on n'a pas de preuves. Je ne sais pas si vous en avez, Joël.
L'État, lorsqu'on sait que dans notre pays, il n'y a pas vraiment le respect des principes de l'ordre de la gestion des finances
publiques. Voilà, merci, Joël. On va terminer avec quelqu'un. Joël, vous êtes encore là?
Oui, je vous écoute.
Oui, vous avez dit?
Je disais ceci, dans notre pays, il n'y a pas vraiment le respect des principes d'orthodoxie de la gestion des finances publiques et on ne peut pas permettre à ce qu'on puisse loger les fonds de l'État dans des comptes ouverts en dans des banques privées commerciales.
Donc vous n'êtes pas d'avis, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas favorable par rapport à cet acte posé par les autorités de loger les comptes dans les banques commerciales.
Le détournement des fonds parce qu'on ne s'est pas contrôlé.
Donc on ne s'est pas contrôlé, mais il y a l'existence de la Cour des comptes.
Oui, la Cour des comptes existe, mais elle est animée par quel type d'homme dans notre pays? On connaît tout le monde.
Merci beaucoup, Joël, d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook à chaque fois que nous vous proposons des thématiques de débat sur Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Alors, professeur Kiboué, vous êtes un ancien ministre des Finances de la RDC, vous êtes notre invité. Nous allons conclure cette émission par rapport aux propos des uns et des autres. Depuis les débuts jusqu'à la fin, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'appréhensions et aussi beaucoup de doutes. Hein, et surtout en ce qui concerne la gestion efficace de la chose publique. Alors aujourd'hui, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette affaire?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'affaire, je la connais pas. Je ne juge pas l'affaire parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments, je vous l'ai dit. Par contre, ce que vous affirmez que nos finances sont préoccupantes et doivent faire l'objet d'une attention plus soutenue, plus consensuelle, je partage votre point de vue. Et ce que je dois dire, il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est ce que, au respect des principes que nous connaissons, et surtout les derniers principes qui sont les principes de sincérité, le principe de lisibilité, le principe de transparence, qui doivent être mises en œuvre, que toutes les législations du monde ont adopté, que nous traînons encore pour les mettre en place. Mais je dis que nous avons avantage, parce qu'aucun pays ne peut subsister si ses finances sont médiocres. Nous avons avantage à régler tous nos problèmes financiers, d'abord en essayant, comme on dit toujours, de mettre en place ceux qui méritent, et puis ensuite essayer, dans la mesure du possible également, faire respecter tout ce qui est comme disposition aussi bien légale que les dispositions d'ordre technique pour la réussite de notre pays. Nous sommes, il faut le dire aujourd'hui, parmi les pays qui sont la risée du monde entier, on le sait, sur le plan financier. Quand vous regardez notre budget avec nos moins de 10 millions, pendant que tous les pays limitrophes ici ont déjà dépassé le quoi, il y a de quoi presque à pleurer. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste de la radio Capi. Je crois que je vais terminer là parce que je suis en plein cours. Je ne peux plus continuer.
Professeur Prosper Kiboué, ancien ministre des Finances de la RDC, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci. Au revoir.
Allô? 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 Mais il ne répond pas.
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Héritier Sidiakala qui a assuré la mise en onde de cette émission. Noël Alouzitou l'a réalisé. J.R. Lugembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Ben Kabamba. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Voilà, le secrétaire d'État américain a séjourné à Kinshasa le samedi 3 mai dernier. Selon certains observateurs, John Kerry était porteur d'un message important des États-Unis sur la RDC. Le diplomate américain s'exprima à l'issue de sa rencontre avec certaines autorités de la RDC, a notamment annoncé une aide de 30 millions de dollars destinés à soutenir des élections dans le pays. Quel message retenir de la visite du secrétaire d'État américain en RDC? C'est le débat de demain. Prenez déjà rendez-vous avec nous en vous inscrivant au 081 890 63 15.